Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sphère des Codes. Je suis super content de vous retrouver pour cette reprise. Et donc aujourd'hui, je serai votre animateur. Moi, c'est Axel. Du coup, je suis développeur full stack chez Sphère depuis quelques années maintenant. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient pas mal à cœur. C'est le craft et tout ce qui tourne autour du craft. Qu'est-ce que c'est? On va essayer un peu de démystifier tout ça et de voir comment on peut appliquer ça dans notre quotidien. Pourquoi, comment, etc. Et pour parler de tout ça, je ne serai évidemment pas tout seul et je serai accompagné de Thomas et de Yann. Merci d'être avec nous pour ce sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous le craft dans le cadre du développement logiciel?
Je vais commencer. Pour moi, le craft, c'est vraiment le... Ça part du principe d'être fier en fait de ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va pas faire juste faire comme on dit dans le langage vulgaire pisser des lignes de code, c'est réussir à construire quelque chose, construire un produit qui répond aux besoins et qui est aussi pour le développeur quelque chose de propre et maintenable et de confortable et quelque chose qu'on, comme je dis en fait le principal principale chose, c'est la fierté.
Je suis assez en phase, c'est du moins l'objectif que j'en ai quand je parle craft, quand je vois craft. Et au final, le craft, pour moi, pour servir cet objectif, c'est vraiment tous les outils qu'on va, et méthodes qu'on va pouvoir mettre à disposition à la fois des développeurs, mais aussi tout l'écosystème, toutes les personnes qui gravitent autour des produits qu'on va pouvoir développer.
Justement, tu parles d'outils, de méthodes. Le craft, ça reste quand même très vaste dans son approche, dans son utilisation, dans son implémentation au quotidien. Est-ce que vous avez des éléments déjà aujourd'hui dans votre quotidien en termes d'outils, de méthodos, etc., que vous mettez en place, que vous avez mis en place?
Il y a beaucoup de domaines. Pour moi, le craft, c'est pas que, enfin, c'est vrai, ça couvre vraiment beaucoup d'aspects. Je sais qu'il y a, on pense aussi au craft, notamment sur, moi je pense en premier lieu au clean code, au fait que ce soit propre, etc. Mais il y a aussi tout la dynamique qui est autour de, on apporte des idées, on veut améliorer, en fait on a une culture d'amélioration, une culture de pousser vers l'avant. Et par exemple, si il y a une chose moi que j'ai trouvé intéressante à faire avec l'équipe actuelle, c'est qu'on a un canal Slack qu'on appelle ID. Et dès qu'on a une idée d'amélioration, une idée de quelque chose, plutôt que de la dire à son collègue en disant hey, bah, etc., j'ai telle idée, machin. Et au final, ça tombe dans l'oubli et on n'a pas le temps d'en parler. On l'écrit dans le canal Slack, comme ça on n'arrête pas son développement, on s'attache, on n'interrompt personne. Et on a un rituel de une fois par semaine où on dépile ce genre de choses qui permet en fait de pas fermer le scope à un seul domaine, de l'ouvrir à toutes les améliorations possibles, par exemple, et de créer cette amélioration continue au global sur un produit. Et c'est une des. Après, il y a d'autres outils un peu plus techniques, en tout cas de mon côté. Je sais qu'on a, par exemple, je parlais du code à l'instant, on a intégré, bon, on dit directement le sonar Lint dans IntelliJ. On n'a pas de pair programming en tant que tel, mais on a les revues GitHub, qui sont maintenant aussi faites par Copilot, mais pas que par Copilot. Donc, par exemple, ça permet de revoir les erreurs du code et aussi de partager les connaissances et d'échanger autour de code de « tiens, t'as fait ça pour ça, pourquoi, etc. » Et donc, rien que ça permet d'avoir une communication, d'éviter le silo. Donc c'est vraiment le craft, pour moi c'est vraiment un aspect global qui traverse toute l'aspect réalisation en fait du produit et pas que le code en tant que tel.
Ouais, effectivement, ça c'est pas que autour du code et c'est même aussi en amont du code pour moi. Ça part déjà de ce que veut le métier, à quoi va servir le produit et donc du coup tout ce qui est atelier de conception, d'échange autour de ce que sera le produit dans la vision du métier. Ça peut être ce qu'on appelle les tres amigos, ce genre d'atelier, qui sont des échanges au final entre le métier, la technique et d'autres acteurs du produit, qui sont importants et qui font partie en fait du craft sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on met ça sous le compte peut-être de l'agilité ou de ce genre de choses, alors que, in fine, ça sert le craft.
C'est vrai que dans tout ce que vous dites, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent faire écho à beaucoup de monde dans chacune des équipes. Enfin, Yann, je parlais des PR par exemple. Enfin, je me dis aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de projets qui vont fonctionner sans justement avoir ces phases de validation sur Git avec des PR, des MR ou peu importe comment on les appelle selon les outils, mais ça reste hyper important et au final, le but derrière, ça reste de créer beaucoup d'échanges en fait et les pratiques vont forcément en découler en fonction des équipes. Mais un point sur lequel je voulais revenir, c'est tu parlais notamment Thomas du besoin métier et du fait d'avoir justement. En fait, je pense. Alors, j'ai pas fait beaucoup de craft dans le concret, dans mes missions, etc. Mais plus sur le mindset autour de ça. J'entends souvent le côté le craft, c'est associé au dev, c'est un truc de dev pour les devs, c'est souvent associé à de l'over-engineering, etc. pour beaucoup. Alors qu'au final, de ce que j'en comprends, de ce que vous m'expliquez, c'est que ce n'est pas quelque chose qui touche uniquement la partie tech, mais qui va toucher beaucoup plus largement une équipe. Est-ce que pour vous, ça touche tous les profils? Quels profils d'une équipe sont réellement impactés par le craft?
J'aurais dit qu'il y a, enfin, de ma perception, il y a un peu moins d'impact, on va dire, côté PO et au-dessus, dans le sens où l'impact, c'est d'accepter le fait que, je dis l'équipe de réalisation, pour englober un peu tout le monde, et une démarche en fait de qualité en fait d'amélioration comme je disais tout à l'heure plutôt que on a une feature il faut tirer les temps au maximum pour pouvoir faire une feature. Il faut avoir cette sensibilité de on prend du temps pour faire les choses bien et pas on rush quelque chose jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à rusher.
Ouais, pour moi, même si les personnes qu'on va impliquer dans nos ateliers n'ont pas conscience que c'est pour le craft, ils ont forcément quelque chose à apporter. Tu parlais tout à l'heure de la fierté de ce qu'on produit au final. Si on va être fier de ce qu'on produit, il faut que ça réponde aux besoins. Pour que ça réponde aux besoins, c'est pour ça que je parlais d'inclure très tôt les personnes dans les process de création de produits. Et donc, oui, les personnes du métier doivent être incluses. Le craft, dans la plupart des cas, va se limiter à l'équipe, comme tu dis, de réalisation, potentiellement. Mais inconsciemment, on va inclure d'autres personnes dedans. Et peut-être que des gens qui peuvent être sensibles à l'apprentissage de ce qu'on fait, ou du moins à prendre connaissance de ce qu'on fait, comment on le fait, peuvent s'intéresser à ce genre de pratique. Maintenant, ils n'en auront pas forcément l'utilisation quotidienne, l'usage quotidien.
Je vais peut-être rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, moi, je pense aussi que quand on disait donc le mélange des différents domaines et notamment pour le besoin, et je pense à un aspect particulier d'expression de besoin. Plus on arrive à fluidifier cette expression de besoin et plus on arrive à sensibiliser, par exemple, quelqu'un qui a une problématique business ou qui a quelque chose de métier à exprimer, en fait. Qui arrive à l'exprimer un peu clairement à une équipe tech, parce que pour moi, une équipe tech et une équipe métier business n'ont pas le même vocabulaire toujours. Et pas les mêmes. Et même s'ils ont le même vocabulaire, ils n'ont pas les mêmes façons de penser, simplement. Et du coup, réussir à chacun à être aligné là-dessus, je pense que ça fait aussi partie de cette pratique de craft, d'amélioration, de réussir à que tout le monde aille sur un produit qualitatif. Et donc, on revient sur la fierté.
Et puis ça laisse aussi en fait à chacun la possibilité d'amener sa plus-value sur ce qu'il doit apporter. En fait, le fonctionnel peut se focus réellement sur la partie business pour réussir à retranscrire le besoin au mieux possible. Et comme ça, les devs ont le temps de justement. Tu passes pas ta vie à faire des allers-retours pour réellement comprendre le besoin qui a été explicité en amont. Et tu as le temps de justement en fait, faire les choses de la bonne façon parce que le besoin est clair de base. Je pense qu'on a tous vécu des moments où on a des US, où on commence à essayer de commencer un sujet et on se rend compte qu'en fait on comprend rien au besoin et on fait beaucoup d'allers-retours. Et ça se ressent dans la conception et dans le développement qui est fait, où on fait des allers-retours à droite à gauche. Et je pense que c'est des choses qu'on a envie d'éviter au plus souvent. Donc effectivement, je pense que rajouter le business et le métier en amont et les inclure dans toutes ces pratiques au quotidien, ça nous permet de fluidifier tous nos process. Mais est-ce que le pendant de ça, c'est pas que justement il peut souvent y avoir un décalage peut-être entre le business qui veut des choses très vite, le nombre de fois où on a peut-être déjà entendu hein, c'est juste un if, vas-y rajoute-le, versus le bah, on a envie de faire les choses bien, de le poser correctement et de mettre en place un peu toutes les pratiques qu'on pourra redévelopper par la suite, mais toutes les pratiques de développement qui vont tourner autour du craft, comment on trouve un peu en fait le juste équilibre entre répondre à un besoin business et ne pas partir dans la surcomplexité côté développement.
Une situation pas évidente, surtout quand on démarre dans sa réflexion, dans son approche craft, de détecter le niveau de complexité face auquel on se trouve et du coup le mettre en face des délais qu'on nous demande de respecter. C'est pour ça que c'est important de respecter, tout à l'heure tu parlais de clean code, ça c'est une des bases. À partir du moment où on respecte le clean code, c'est plus facile de revenir après sur son propre code et de venir améliorer ou itérer dessus. On n'est pas obligé de partir tout de suite dans des gros mots de DDD, de BDD, de ce genre de choses en fait. Si on fait du clean code parce qu'on doit aller très vite, c'est ok, c'est pas parfait, c'est pas à l'état de l'art comme on souhaite l'avoir, mais ça permet d'itérer proprement et rapidement une première fois.
Je pense qu'il y a une notion aussi, comme tu disais, il y a aussi une notion de confiance pour moi qui émerge un peu là-dedans. On accepte. Alors effectivement, il y a des délais business. Hein, des fois, par exemple, il faut être avant le concurrent et là, ça s'entend parfaitement. Et du coup, on sait que le craft, c'est pas quelque chose de figé. Il faut que ça soit adapté au contexte, adapté aux besoins. Si le besoin, c'est de délivrer très vite. C'est un besoin, c'est pas. Et du coup, faut réussir à, tout en répondant aux besoins, donc de délivrer très vite, comme tu disais, donc au moins avoir une base de clean code. Et en fonction de la rapidité, des fois même, on ne peut pas forcément la faire. Mais dans ce cas-là, savoir et réellement le faire, ce qui est quand même deux choses différentes, qu'on ait une dette en fait. Que ce temps qui n'a pas été utilisé, en fait, il n'est pas compressible. Il va être payé d'une manière ou d'une autre. S'il n'est pas payé en rattrapage pour me remettre le socle propre, il va être payé en run à un prix qui peut être pas forcément en temps, mais qui va être en confiance d'un client, par exemple, si la prod casse, etc. Et pour ça, il faut avoir une sorte de confiance vraiment entre le business et l'équipe de réalisation pour. Qu'il n'y ait pas une incompréhension en fait de pourquoi vous avez mis autant de temps et pourquoi maintenant qu'on vous a demandé vous avez réussi à faire, parce qu'il y a ça aussi, quand vous avez réussi à faire ce développement en un temps record, pourquoi maintenant vous êtes beaucoup plus lent? Ça, il faut que ça soit dès le début acté que ça va pas toujours être comme ça.
C'est ça, puis c'est un peu du coup la réponse à c'est juste un if. Oui, ça peut être un if maintenant, si on prend le temps de refaire. A posteriori, c'est dans un, deux, trois sprints, revenir sur ce qu'on a fait parce qu'on sait qu'on aura un peu plus le temps, refaire les choses proprement pour éviter d'accumuler, enfin de garder cette dette technique trop longtemps justement et risquer de partir sur du run comme on le voit un peu trop souvent en fait.
Pour savoir rester pragmatique en fait, je pense sur ces éléments-là, entre parfois, comme tu disais, on peut avoir des enjeux business qui sont très forts, on a besoin de livrer quelque chose très rapidement et compagnie et on se dit bah. Là, je sais que je peux faire un truc un peu quick and dirty qui va sortir là maintenant, qui fonctionnerait et sur lequel on peut revenir par la suite. Mais c'est effectivement, je pensais toujours un équilibre à trouver entre le. Je peux te faire quelque chose de pas hyper clean, mais qui va débloquer ton business et qui te permettra de faire évoluer les choses par la suite, mais tout en ayant conscience de. Il y a de la dette, faut qu'on la quantifie, qu'on puisse l'identifier et justement pouvoir l'absorber par la suite. Mais vous avez des astuces, des choses au quotidien pour justement en fait identifier cette dette. Tu parlais tout à l'heure, Yann, du channel Slack, par exemple. Je me dis que dans les idées, tu pourrais très bien dire il y a de la dette sur ce truc-là, il faut refacto telle partie, tel machin. Mais comme c'est souvent des sujets qui vont être très orientés tech sur cet aspect-là, c'est inclure le côté business de bah, est-ce que si vous fonctionnez en sprint par exemple, est-ce que vous avez des façons d'inclure la dette dans vos sprints ou plus sur ce genre de choses en fait, dans l'organisation du quotidien de votre travail, comment vous faites pour gérer la dette, l'intégrer et l'absorber comme il faut?
Alors nous, du coup, on se base autour du canal que j'expliquais. On crée, donc on challenge en fait chaque idée en se disant bah, ça on fait pas, ça c'était une mauvaise idée. Ou bien des fois c'est juste des remarques, hein, c'est pas forcément. Et des fois c'est juste de l'acculturation du produit en disant bah voilà, j'ai découvert ça quand j'ai fait ça. C'est un partage. Et ça alimente une sorte, nous, au niveau organisation, un épique technique. Et cet épique technique, on le dilue en fait justement dans les sprints, en fonction des apports métiers qu'on a, parce qu'on n'est pas toujours alimenté, on a un contexte qui varie. Et du coup, on essaie de diluer et on met des priorités. Alors, l'inconvénient, c'est que comme d'habitude, il y a des sujets qui sont moins prio et qui, au final, c'est un peu le fameux l'image du on a un bureau, on empile les dossiers, au bout d'un moment on pousse les dossiers et les dossiers au bout du bureau tombent. C'est un peu pareil avec ces JIRA-là, on repasse dessus, soit on les a fait de manière naturelle, parce que des fois en fait on se dit ah oui, on a parlé de ça, et comme on passe dans le code et on applique le principe que quand on repart du code, il est plus propre que quand on est arrivé. Donc si on peut l'appliquer, on le fait. On le met dedans de manière automatique, quand ça ne nous coûte pas trop, bien sûr. Ça, on peut le faire aussi parce qu'on a une structure de test et enfin, on est plutôt robuste. Et c'est comme ça, en fait, on applique et qu'on dilue nos évolutions. On a aussi des rituels, des petits rituels par-ci par-là. Genre, on a le petit rituel du lundi après-midi de aller sur tous les repos et faire donc les dépendabots, c'est les robots qui disent hey, t'as une mise à jour de sécurité, etc. Et donc, il y a nos CI qui se lancent, on vérifie que tout est vert et on clique sur les petits boutons, tous ensemble, parce que c'est quand même pas très rigolo. Et il y a des fois, par contre, on se rend compte que c'est des choses bien cassantes, et là, on prévoit des choses. C'est comme ça qu'on garde aussi un niveau de mise à jour de sécurité et qu'on applique nos évaluations.
J'aime bien ces moments rituels, un petit peu de. On va essayer de contrer un peu la dette technique qu'on a créée. J'aime bien aussi mettre en place des systèmes de. Ben, l'outil de ticketing, c'est pas que pour le métier en fait. Et j'aime bien que le métier prenne conscience de la dette technique qu'on a accumulée pour répondre à la demande de délai ou à la demande en fait, juste. Et du coup, le mettre en face des décisions qu'on a prises conjointement et de se dire bah, maintenant ce sprint-ci il faut rattraper la dette technique et on s'était mis d'accord, on prend autant de pourcentage de sujets techniques dans un sprint, bah, ce ticket-là on estime qu'il peut passer ou alors celui-là il est vraiment urgent, le besoin de métier que tu nous proposes là il peut attendre un petit peu, il peut attendre un sprint en plus, très bien, on fait l'inverse, on va prendre le sujet technique qui est un peu gros qui va nous permettre de liquider de la dette technique qu'on a accumulée sur les sprints précédents et de se sentir plus serein sur les prochaines livraisons. Après, pour éviter tout ce qui est dette technique, alors il y a la dette technique de code, et il y a la dette technique aussi de connaissances, de manque de partage. Ça, c'est plus rituel de pair programming, de mob programming aussi, qui viennent combler un peu ça. Voilà. Sinon, j'ai pas d'autres solutions que ce que tu me fais aussi en mission en fait.
Bah justement là, enfin, j'aime bien, il y a plein de buzzwords entre guillemets qui sont ressortis là, dans tout ce qu'on se dit. Il y a plein de choses qui ont été évoquées, ça a parlé d'archi-exa, de TDD, de BDD, on parle de pair, de mob et compagnie. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien sur ce genre de pratique et qu'est-ce que vous associez réellement au craft? Est-ce que tout fait partie du craft?
Pour moi, le craft, c'est plutôt un axe, en fait. Et tout le TDD, BDD, tout ça, c'est des outils. L'outil doit être adapté au contexte. Donc, je sais par exemple que le TDD, moi, je le fais quand j'ai des règles métiers claires que c'est assez complexe. Je le pratique. C'est pas quelque chose que j'ai en automatisme. Je sais que j'ai encore l'ancienne façon de je fais mon code, mais c'est parce que je le pense déjà en fait. Comme j'ai fait déjà assez beaucoup de tests, j'ai pas trop de mal à le tester derrière en fait. Et c'est parce que dans mon flux de pensée, c'est un peu comme ça. Et par contre, pour les règles ancrées, je les écris d'abord en test et ensuite je les. Donc faut rester assez souple. Je pense que chacun a sa manière d'avancer, par exemple pour le TDD hein, spécifiquement. Je pense que la meilleure manière, c'est la manière la plus efficace pour le projet, pour soi aussi. Qu'il n'y a pas à marteler un truc en particulier. Et que, enfin, c'est mon avis, hein. Et que celui qui répond, là en l'occurrence, du besoin d'avoir quelque chose de propre, compréhensible et testé, qui a été fait en TDD, c'est-à-dire les tests avant ou les tests après, tant qu'il y a les tests, c'est déjà bien. Et qui teste correctement ce qu'on a fait, bien sûr. Pour moi, ça, c'est une pratique, c'est un des outils à utiliser ou pas. Je pense que le principe de base à respecter, c'est que quand on a validé quelque chose, il reste valide dans le temps. Et d'où le test qui vient ancrer ça.
TDD, test first, peu importe le nom qu'on lui donne, la façon dont on le fait aussi, hein, même si c'est un test after, peu importe. Le test, c'est important pour conserver une confiance dans le logiciel qu'on va délivrer et s'assurer d'être fier, encore une fois, de ce qu'on va livrer, vu que c'est l'objectif, en fait, du craft. Hein. Alors, le TDD, oui. Le pair programming ou le mob programming, c'est partie des outils que moi je mets en place dans toutes les équipes dans lesquelles je passe, parce que pour partager la connaissance, que ce soit avec des développeurs expérimentés qui codent pas forcément de la même manière que soi, ça permet d'unifier une code base, ou avec des plus juniors en fait, qui vont pouvoir peut-être grandir plus rapidement. Peut-être aussi des fois avec certains de nos défauts. C'est un peu le problème de cette méthode, mais ça me semble assez OK. J'aime bien aussi mettre des ateliers d'échange entre développeurs tech. J'aime bien ritualiser ça une fois par sprint, une fois tous les deux sprints, se mettre 1 heure, 2 heures pour parler soit d'un sujet qu'on a rencontré, d'un problème qu'on a rencontré, ou d'une solution qu'on veut mettre en place dans le produit dans lequel on travaille, ou même juste pendant la veille. En fait, le temps de veille tech peut être partagé et c'est efficace du coup pour tout le monde, c'est utile pour tout le monde. Fait partie, pour moi, le partage vraiment fait partie du craft, que ce soit autour du projet ou tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur du projet aussi.
Justement, dans ce que j'ai vécu là, sur ma mission en cours, justement, je me suis rendu compte que l'échange était peut-être même plus important en amont que la réalisation derrière, en fait. Parce que tu as beau essayer de pousser les meilleures pratiques de clean code que tu as lues dans tous les bouquins ou que tu regardes sur toutes les documentations qu'on peut avoir, le clean code, c'est bien sur le papier et compagnie, c'est plein de règles hyper cool au quotidien. Mais si tu as une équipe qui ne communique pas, et que chacun va commencer à faire les développements un peu dans son coin et compagnie, chacun va avoir son interprétation du sujet, sa façon de le mettre en place et compagnie. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu n'uniformises rien. Tout le monde va avoir des bonnes pratiques individuellement, mais collectivement, ça te donne juste un gloubi-boulga de pratiques de chaque personne. Et ouais, j'ai pu me rendre compte justement que cette partie échange, tant que tu ne mets pas tout le monde, tous les gens concernés autour de la table pour. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quitte à écrire des team practice et compagnie pour avoir une trace en fait de quelles sont les pratiques réelles de l'équipe et comment on doit faire les choses. Bah, c'est dur d'avancer en fait sans cette partie échange, discussion et compagnie. Effectivement, le pair et le mob, je pense, ça a aussi été des choses que j'ai vues pour le coup un peu transformer une équipe en fait.
Ouais, c'est ce que je ressentais aussi un peu dans ce que Yann disait à propos de ça dépend en fait du contexte et de l'équipe. Et du coup, le rituel premier et le plus important du coup pour détecter ce genre de choses, c'est le rituel du café en fait. C'est d'aller prendre un café hors du contexte projet en fait, juste échanger avec les gens, se rendre compte un peu de leur façon d'être, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils aiment et de comment ils aiment travailler peut-être. Et du coup, ça permet d'enclencher une discussion et un axe de travail commun.
D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que je me disais actuellement, je suis dans une petite équipe. Ça fait pas mal de bien. On est que quatre. Donc au niveau communication, justement, il y a moins cet aspect perte d'information vu qu'on est très proche. On est
Ok, donc
deux développeurs, un tech lead architecte, donc il y a deux casquettes. Et après, on valide tout ensemble, c'est-à-dire les designs sont faits ensemble, on peut se permettre de faire ça, donc du coup, il y a toute une émulsion globale. Et il y a moins de pertes d'information, il y a moins de silos. Donc je suis passé, et alors mon ancien projet, où on était plutôt 30. Donc des petites équipes divisées de 5. Et donc du coup, là par contre, au niveau com et au niveau pratique, c'était pas la même chose. Et en plus, on n'avait pas la confiance, pas forcément la confiance, ce qui fait que le pair programming était mal vu car c'était vu de la hiérarchie comme une perte de temps, vu qu'il y avait un ETP en moins. Pour ça. Donc d'où je reviens sur l'aspect confiance et aussi la notion de enfin, choses différentes à appliquer en fonction du contexte, donc en fonction de la taille de la team, qui du coup doit être complètement différent. Par exemple là, l'ancien modèle, donc à une trentaine, il y avait des lead devs dans chaque équipe de 5, qui faisaient pont entre les équipes, qui se réunissaient, qui communiquaient, donc du coup. Et après, qui refaisait une descente pour éviter d'immobiliser 30 personnes pour chaque rituel, et qui commençait à devenir vraiment beaucoup. Et ça se comprend. ils avaient trop peu de pouvoir, malheureusement, sur les rituels, sur les actions qui étaient possibles. Mais ça restait enfin, une organisation de craft, on va dire, une forme de craft. Le problème, c'était qu'ils n'avaient pas assez de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils voulaient. Mais c'était intéressant de voir émerger des choses comme ça, quand même comme ça. Donc il y a vraiment une application différente en fonction de la taille. Et effectivement, je reviens, le pair programming, qu'importe la taille, par contre, ça s'applique très très bien.
Si vous arrivez demain en fait, dans une équipe où vous voyez que potentiellement par rapport aux pratiques craft et aux méthodos que vous connaissez, il n'y a pas grand-chose qui est en place, vous commencez par quoi et qu'est-ce que vous faites pour justement essayer petit à petit de mettre en place un peu cette culture craft et transmettre en fait des choses au quotidien aux gens avec qui vous allez travailler?
Je pense que je vais commencer par me servir de ce pas grand-chose de présent pour essayer de mettre l'accent dessus, montrer que ce qu'il y a de pas grand-chose, c'est déjà bien en fait, mais qu'on peut faire mieux en venant proposer peut-être soit d'en faire un petit peu plus sur ce qu'il y a déjà en place, soit de venir rajouter un élément à côté. Et peut-être, je sais pas s'il n'y a pas de métrique de ce que ça peut apporter, peut-être essayer d'aller chercher de la métrique en fait. De se dire, ok, on a quelques tests, ils ne sont pas mis à jour régulièrement. Par contre, si on regarde les tickets de run qu'on reçoit dans l'équipe, c'est rarement sur le périmètre de ce qui est testé. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de tester le reste, même si c'est a posteriori, que ça demande un effort un peu plus conséquent que de faire du test au fil de l'eau. Donc ça va, il va falloir, du coup, soit l'équipe tech est en phase avec ça et bah, va juste falloir aller discuter avec les décideurs, les commandeurs du projet, du produit, soit l'équipe a changé et la nouvelle équipe n'est pas du tout au fait de ces pratiques-là ou bah, pas formée. Et du coup, bah, prendre un peu de temps pour former ces gens-là, leur montrer ce que ça peut apporter au quotidien et surtout ce que ça peut leur enlever comme pénibilité en fait, hein, parce que d'aller faire du run, ça fait plaisir à pas grand monde, je pense. Rédiger des tests non plus, mais faire du run encore moins. Donc je pense que c'est peut-être la première chose sur laquelle j'agirai. Et la deuxième, c'est peut-être aller dans des rituels dans lesquels les techs ne sont pas invités pour décider de ce que sera le produit, ne serait-ce que pour écouter et entendre le besoin original, en fait, et pas une retranscription de ce que quelqu'un a compris et a retranscrit dans un ticket. Entendre le besoin et se faire son idée de ce que veut le métier à la base.
Je pensais du coup à donc, ce que tu disais, amener le craft dans une équipe. Je pense que ça dépend fortement effectivement du profil de l'équipe. Je sais que ça va être plus facile à amener dans une équipe de jeunes développeurs, on va dire, d'expérience, enfin de peu d'expérience, que quelqu'un qui a des pratiques ancrées. Si on prend par exemple je vais prendre un stéréotype exagéré. Par exemple, le pompier, vous connaissez le stéréotype du pompier, donc qui code tout seul dans son coin, et qui personne comprend ce qu'il fait, et quand ça plante, il n'y a que lui qui peut réparer, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a que lui qui maîtrise.
Il a mis l'incendie tout seul et il n'y a
Voilà,
plus qui sait
et qui
l'éteindre.
du coup a une image très glorieuse auprès de tout le monde, car c'est le sauveur. Et pourtant, c'est pas si bien que ça. Là, par contre, c'est extrêmement dur, je trouve difficile d'amener cette culture parce que comme c'est quelque chose d'ancré et qui est par des formes de biais cognitifs donne de la valorisation, ça va être difficile à montrer en fait. Il n'y a que par et même par métrique. La métrique va être, on peut lui faire dire tout au final. Enfin, ça dépend bien sûr comment elle est présentée. Tandis que dans une équipe de jeunes où là on va de jeunes d'expérience hein, toujours ou ouvert à l'amélioration continue on vient enfin moi j'ai la démarche d'apporter du confort c'est-à-dire que je pars du principe que quand on n'a pas de run on est en confort on n'a pas besoin de réagir par rapport à sortir de quelque chose etc. être en stress sur quelque chose Par exemple, la rédaction d'un test, j'avais fait du coup, j'avais sensibilisé des équipes, j'avais fait des formations à comment écrire des tests, comment tester en partant de Legacy avec des diagonales de complexité qui faisaient plus d'une page, pour ceux qui voient de quoi je parle. Comment réussir à couvrir ça alors qu'il n'y a aucun test. Une fois qu'on a ça, c'est le plus dur, et au fur et à mesure, on arrive à sortir de cette complexité et pouvoir refactorer tranquillement. C'est vraiment apporter cette. Par exemple, quand j'ai envie d'écrire un test, je sais où je vais. Déjà. Rien que ça, j'ai pas d'effort cognitif à faire. J'ai une page blanche devant moi, qu'est-ce que je commence à faire? J'ai une liste de choses à faire, hop, je l'ai. Effectivement, il y a le pourquoi je le fais et qu'est-ce que ça m'apporte, qui est très important, bien sûr. Mais ça, je pense, au début, ça se trouve. Enfin, il n'y a que quand on commence à améliorer son code qu'on le voit. Et c'est comme la plupart des choses du craft, au final, on les voit après. L'apport, il est après. C'est quand on n'a pas de quand on n'a pas de problème de run. Ça se voit que plus tard. Le pompier disparaît, du coup, par exemple. Le confort, quand on commence à développer, on se rend compte qu'au final, notre rythme de delivery est le même. Il était plus long au début, mais il est constant. Alors que si on n'apporte pas cette démarche-là, on est rapide au début et au fur et à mesure, moi je vois ça comme une tour. Et en fait, plus la tour commence à basculer, à être de moins en moins comme un Jenga, quoi, plus on joue à ça en fait. On commence à enlever la petite partie du bas pour la mettre en haut et voir comment ça tient. Et c'est celui qui fait tomber la tour qui a perdu. Voilà, donc pour moi ça dépend vraiment du profil et je vois ça aussi dans la formation et dans l'explication et l'apport de confort parce que dès qu'on est plus confortable à le faire, on se dit ah c'est bien et mentalement en fait ça enfin, c'est un cycle positif quoi.
Eh bien super, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Le petit mot de la fin, ce sera si vous deviez donner un conseil rapidement à quelqu'un qui veut se lancer un peu dans cette culture craft, découvrir, démarrer de son propre chef, quel serait votre conseil?
Son propre chef, ça peut être laborieux. Il y a pas mal de groupes, de communautés qui existent. Peut-être aller se greffer à une communauté, écouter ce qui se dit dans les différents meet-up qu'il peut y avoir, que ce soit en ligne ou en présentiel. Mais de toute façon, on ne commence jamais vraiment tout seul, dans la mesure où on n'est pas tout seul sur un produit à travailler, et ne serait-ce que discuter avec ses collègues. Premier pas.
C'est ça. Savoir qu'on peut se tromper aussi. Parce que le craft, c'est des tentatives d'amélioration et faut pas croire que toutes les tentatives vont réussir. Il y a des choses, on va les tester. Il faut être capable aussi de se dire, on a testé ça pendant un mois, par exemple. Ben, ça nous a rien apporté du tout, à part de la complexité. Bon, ben, on arrête, on part autrement. C'est une façon aussi de pouvoir dire ça, j'ai fait, et pas et créer son expérience.
Beaucoup de pragmatisme finalement, de la communication, des échanges, et il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup. Bonne écoute à tous et on se retrouve pour le prochain Sphère des Codes.